Dis à ton voisin que le ciel te tombe sur la tête. Que le ciel te tombe sur la tête. Les Gaulois avaient peur juste de cela. Leurs ennemis, ils n'en avaient pas peur, mais ils disaient, pourvu qu'en allant combattre, le ciel nous tombe. Et nous, aujourd'hui, dans notre vie d'église, nous avons soif que le ciel nous tombe sur la tête. Que le ciel s'ouvre largement et que sa présence vienne sur nous, nous bouleverser. Que son royaume, que les choses d'en haut du ciel viennent sur nous et nous impactent, nous bouleversent, ne nous laissent pas tels que nous sommes. Nous voulons être transformés par la réalité de sa présence. Pourquoi on a appelé cette série « Ouvrir le ciel » Parce que lorsque l'homme a péché, vous savez, le ciel, le paradis, c'est Éden. D'accord? Et Éden a été fermé à cause du péché. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés d'Éden. Et la présence de Dieu et le paradis et le royaume de Dieu a été fermé. On a mis des séraphins avec des épées qui empêchaient l'homme de rentrer dans la présence de Dieu. Et en fait, nous sommes en train de découvrir les clés pour que de nouveau cette porte soit ouverte. L'accès au paradis, à la présence de Dieu, au royaume de Dieu, soit manifeste. Et Christ a fait cela. Ce qu'il a accompli, il nous a donné les clés pour que de nouveau, quand on arrive et qu'on présente son sang au ciel, au royaume de Dieu, à la présence de Dieu, les anges disent bienvenue. Les séraphins disent bienvenue. Pour aller faire quoi? Aller manger de l'arbre de la vie. D'accord? Ça avait été défendu pour eux de toucher à cet arbre. Et puis eux, ils en ont pris et Dieu a dit, parce que vous avez désobéi, c'est la mort pour vous. Mais en Christ, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a donné de nouveaux accès. Il nous a donné les clés pour que le ciel, le paradis, le royaume de Dieu, la présence de Dieu soit de nouveau accessible. Mais en plus de cela, des fois dans nos vies, il y a des choses qui font que, c'est pas que le ciel se ferme, qu'on n'a plus accès, mais il y a des choses qui sont comme embrouillées, sont comme empêchées. Et Dieu veut de nouveau susciter en nous la faim et la soif du pain de vie, de l'arbre de vie. Et ce matin, mon sujet, mon propos, c'est-à-dire ce qui ouvre le ciel, on a vu dimanche dernier, la repentance ouvre le ciel. Parce que quand Jésus est venu, il a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche, le paradis, la présence de Dieu, les choses d'en haut sont accessibles par la repentance. C'est une clé. On a vu cela, et vous pouvez écouter ça sur notre site internet. Mais aujourd'hui, je vais parler de la faim et la soif de Dieu qui ouvre le ciel. Quand tu soupires après la présence de Dieu. Quand tu as faim de la présence de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, est un homme de qui on retient le psaume 42, le psaume 63. Il dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme soupire. Je vais vous raconter, en ce qui me concerne, il y a quelques années, il y a peut-être une quinzaine d'années, j'ai eu le privilège de pouvoir manger tête à tête avec le pasteur Mamadou Karambiri. On est allé à un restaurant là, à Galargues-le-Montieu, un super restaurant. J'ai payé, je voulais avoir un moment. Il habitait juste à côté. Je l'ai invité. Il est venu. Je suis allé le chercher. On allait manger ensemble dans un resto. Et puis j'avais des tas de questions. Moi, j'ai toujours plein de questions. Je lui ai posé la. Puis à un moment donné, je lui ai posé une question, je m'en souviendrai toute ma vie de sa réponse. Je lui ai dit, mais le Seigneur a mis en moi une faim, une soif des choses d'en haut, tellement brûlant. J'ai peur que cette soif me dévore et puis qu'en vérité, je sois à côté. Et qu'en fait, je ne devrais plus avoir cette faim, cette soif, parce que ça me consume à l'intérieur. Il m'a regardé, il m'a dit, Dieu ne peut pas avoir placé cette faim et cette soif en toi sans vouloir la rassasier. C'est Dieu qui. Vous savez, pour ceux qui me fréquentent ou qui me connaissent, quand on va devant Dieu, des fois ça peut choquer. Je peux crier à Dieu avec une faim, une soif profonde. Et c'est indispensable dans nos vies. Si on n'a pas faim de Dieu, en fait, on est malade. Vous savez que la faim est un signe de santé. Un enfant qui ne mange pas, la maman, elle devient folle. Un esprit qui n'a pas faim de Dieu, un esprit qui n'a pas soif de Dieu, est malade. Vous savez, on est fait comme ça. On ne peut pas vivre sans avoir faim. Dieu nous a créés ainsi. Les besoins fondamentaux de nos vies sont toujours une faim. On a besoin du pain qui symbolise la nourriture tous les jours. Sinon, on est en jeûne, mais à un moment donné, il faut manger. Si tu n'as pas faim de Dieu, tu es malade. On appelle ça l'anorexie spirituelle. C'est grave. Tu es en risque de mourir spirituellement. Et quand cette faim de Dieu n'est pas comblée, on va manger autre chose. On a besoin de se rassasier. C'est une faim. Et dans le royaume de Dieu, c'est curieux. Hein? Quand on mange les choses d'en haut, on a encore plus faim. C'est pour ça que la parole de Dieu dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » Il y a une bénédiction à avoir faim. Le but de ma prédication ce matin, c'est que tu retrouves la faim de Dieu. Si tu l'as perdu, reconnais-le, fais. On va voir tout ce qu'il nous faut faire pour retrouver. Quand on a faim de Dieu, la Bible nous dit, tu es béni. Quand tu retrouves la faim, tu es béni. Le ciel va s'ouvrir sur la base de ta faim. Tu veux retrouver Éden, tu veux retrouver la présence de Dieu, tu es dévoré par cette faim, tu cherches, tu frappes, tu te demandes, tu cries, tu soupires, tu désires la présence de Dieu. Et en fait, c'est bon signe. Moi, quand je voyais le pasteur Mamadou, je croyais que j'avais un problème et que peut-être qu'il faudrait que je passe à autre chose. Non ! Presque, il me dit, garde cette faim et cette soif. Ça te garde en bonne santé. Et on peut avoir plein de faim. Nous sommes faits de plein de faim, en fait. Par exemple, moi, quand j'étais fiancé, et je voudrais m'adresser aux ados, aux jeunes ce matin. Quand j'étais ado, quand j'étais jeune, j'avais faim. Vous savez de quoi ? De sexe. Et Dieu nous a créés avec ce besoin. Et ce besoin est légitime. C'est une faim. C'est une soif. La Samaritaine, vous savez, pour ceux qui connaissent la Bible, dans Jean 4, elle avait tellement soif d'amour qu'elle faisait du sexe. Elle s'était mariée 5 fois et puis elle avait envie, elle avait soif. Et Dieu dit, cette soif-là, si ce n'est pas moi qui la remplis, tu vas toujours courir après les hommes, courir après les femmes. C'est une faim, c'est une soif. Et moi, ado, jeune, j'avais vraiment faim de sexe. Je me suis fiancé, waouh, c'était un feu dévorant. Et fiancé, on s'est fiancé un an et demi. Ça a été une grande épreuve. Dieu nous a fait grâce, j'ai fait ma formation biblique pendant ce temps. Alléluia. Je jeûnais, je priais. Oh Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, j'ai dû... Vous savez, c'est une bénédiction d'avoir faim. C'est signe de bonne santé d'avoir faim. Nous sommes faits pour être comblés, être désaltérés, être rassasiés aussi par les rapports sexuels. Mais si tu sais contenir ta faim, si tu sais contenir ta soif jusqu'au mariage, il y a une bénédiction. C'est bon d'avoir faim. Tu ne peux pas dire j'ai faim, je prends ici, maintenant. Il faut savoir réguler sa faim. Quand tu le fais, tu investis dans ton couple. Tu investis dans ton avenir. Ceux qui consomment avant, ce n'est pas qu'ils ne seront pas bénis. Mais je peux vous garantir, quelqu'un qui sait dire « Oh, je maintiens cette faim. » J'honore ma femme, j'honore mon engagement. J'ai décidé que ce soit un investissement pour mon couple. Parce que j'ai appris à maîtriser cette faim. Si je n'apprends pas à le faire pendant les fiançailles, je perds quelque chose après. Il y a une grâce qui est liée au fait de tenir sa faim, de la maintenir. Il paraît même que la sexualité est encore plus bonne quand on sait maîtriser. Les Chinois, les Asiatiques, ça s'appelle comment déjà ? C'est un nom, ça. Hein ? Voilà. Ça veut dire que tu gères ta faim. C'est-à-dire, ta faim, tu dis, on n'y va pas, on n'y va pas, on contrôle. Puis au moment donné, quand tu y vas vraiment, il y a une bénédiction particulière. Oula, vous me suivez là ? C'est pas juste ta faim, là, petit va. Non. Sache contrôler ta faim. Sache maintenir la faim et pas être esclave de cette faim. Ça maintient quelque chose. Il y a une grâce, il y a quelque chose du ciel qui s'ouvre. Et je peux vous dire, avec tout ce que je vous ai raconté sur ma vie, le besoin de restauration en rapport aux besoins affectifs et tout le reste, parce que j'ai fait ça, ça a participé à ma santé et au fait que dans notre couple aujourd'hui, par la grâce de Dieu, 26 ans de mariage, on est comblé. Je rends grâce à Dieu. On est comblé sur ce domaine. Mais je suis persuadé que c'est lié au fait d'avoir su maintenir ma faim et ma soif. Je ne sais pas si vous me suivez là. On va finir ce culte quand j'aurai terminé sur le besoin d'avoir faim et soif de Dieu. Il y a des indicateurs si tu as faim et soif. Mais c'est de choisir un domaine qui remplit ta vie. Tu te rassasies de quelque chose et tu sais que ça ne comble pas le besoin le plus profond. La faim, la soif que tu as, qui est de Dieu. En vérité, ton esprit désire Dieu, désire la présence de Dieu, désire l'arbre de vie, désire la vie véritable. Ta soif et ta faim de cela, et c'est sain de développer cette soif, de la nourrir, de maintenir ce niveau de faim et de soif de Dieu. C'est ça qui fait que le ciel s'ouvre. Dès qu'il n'y a plus une faim et une soif, c'est ce que Jésus reproche à une église à laquelle il écrit dans l'Apocalypse, l'église de Laodicée. Il dit, mais tu n'as plus besoin de rien, tu es riche. Tu te crois arrivé, tu es comblé, tu es satisfait. Une sorte de compte, pas de contentement, de satisfaction, d'orgueil, de suffisance. Mais il dit, mais non, tu es pauvre, tu es nu, tu es malheureux. Mais tu crois que tu es heureux. Pourquoi ? Parce que tu te remplis d'autres choses et parce que tu crois que tu te remplis d'autres choses, tu es comblé. Ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas moi qui te comble, tu n'es pas heureux. Tu crois être heureux, mais tu ne l'es pas. Donc il dit, viens vers moi, achète de l'or. Viens vers moi, cherche ma présence, viens, cours, trouve-moi et là remplis-toi. Et ce n'est pas que Dieu ne veut pas que nous ayons le reste, mais que le reste soit à sa bonne place. C'est ça mon message ce matin, retrouver la faim et la soif de Dieu. Il y a une tension dans la vie chrétienne entre être rassasié et avoir faim. C'est une tension, elle est saine cette tension. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons tout pleinement en Christ, nous sommes en lui, nous avons de la valeur. Toutes ces choses font qu'on est rassasié, on est comblé. Nous devons être comblés en lui. Mais il y a toujours des saisons où il faut que nous apprenions à avoir faim. Parce qu'il y a à la fois avoir faim et être rassasié. Dieu promet de nous rassasier. Et il y a des saisons où il nous rassasie. Mais si dans nos vies, dès que nous sommes rassasiés, c'est ce qu'il dit au peuple d'Israël, quand tu seras rentré dans la terre promise et que tu seras riche, béni, parce qu'il sortait d'une période de disette, de désert. Mais quand il sera, n'oublie pas, ne perds pas ta faim. Ne dis pas, c'est ma main qui l'a accompli. Ne sois pas satisfait, ne sois pas heureux de toi-même. Retrouve la faim. Peut-être même toi-même provoque un niveau où tu dis, je veux ressentir de nouveau la faim de Dieu. Et quand une église a faim et soif de Dieu, le ciel est tout près de se déverser. À nouveau, Dieu déverse tous ceux qui ont faim et soif de sa présence. C'est une clé. Jésus dit, si tu cherches d'abord le royaume de Dieu, si tu cherches d'abord ma présence, si tu cherches d'abord ma justice, si c'est moi qui viens en premier, toutes les choses dont tu as besoin, et il ne les ignore pas, te seront données. Le ciel va s'ouvrir sur des besoins que tu cherches légitimes. Le pain, l'habillement, boire, avoir un toit, puis tout le reste, tous ces besoins. Le ciel va s'ouvrir. La grâce de Dieu va être manifestée si nous réussissons ensemble, individuellement, mais ensemble, en famille, à trouver et à remettre Dieu en premier. Alléluia. Dieu valorise la faim parce que ça nous maintient dans l'humilité. Un cœur qui n'a plus faim, un cœur suffisant, c'est un cœur orgueilleux. Et Dieu aime les humbles. Il fait grâce aux humbles. Il déverse sa grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. En fait, si nous avons faim et soif, nous voulons dépendre de Dieu. Et cette dépendance, elle est essentielle pour voir le royaume de Dieu se manifester. Alors, ma question ce matin, avant d'aller plus loin, c'est quel est ton niveau d'appétit spirituel ? As-tu faim ? Regardez ce que nous dit Dieu au peuple d'Israël dont je parlais tout à l'heure dans Deutéronome 8:3. C'est fabuleux ce texte. Dieu dit, je t'ai humilié, je t'ai fait souffrir de la faim. En fait, si Dieu nous fait souffrir de la faim, nous sommes bénis. Alléluia. Dieu prend Israël, il le sort d'Égypte, son fils, et il l'amène dans le désert. Il dit, j'ai voulu t'humilier. J'ai voulu te faire souffrir de la faim. Et moi, je t'ai nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, tu as eu faim physiquement. On jeûne. Vous savez, en ce moment, moi, je jeûne, le jeûne de Daniel. J'ai faim. C'est-à-dire, je mange, j'ai l'impression, je sors de là, je dis, mais on dirait qu'on n'a pas mangé, quoi. Et alors, du coup, je prends des fruits secs, des machins, pour remplir, j'ai faim. Et en fait, le Seigneur nous dit ici, je t'ai fait éprouver la faim. Quand tu jeûnes, tu éprouves la faim pour t'apprendre une chose. En fait, il y a une faim qui est au-dedans de toi, qui doit être assouvie, mais qui ne passe pas par la nourriture. Et quand tu es rassasié, tu te dis, je suis comblé. Non. En fait, prive-toi de nourriture, prive-toi de certains aliments pour ressentir la faim, pour qu'en ressentant cette faim, tu te souviennes que ton esprit a faim et soif de Dieu. Et du coup, cette faim, cette soif va te donner de te tourner vers lui et de le chercher et de dire, Seigneur, tu as des choses à me dire. Mon esprit a besoin de vivre de la parole qui sort de ta bouche. Ça devient une nourriture, ça devient mon pain quotidien qui fait que je m'en nourris. Et ça me permet de vivre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra. Il faut que ton esprit puisse vivre d'une parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire chaque jour, une parole. Une saison, une parole qui te nourrit. Cette parole te donne une vie spirituelle. Et pour avoir cette parole, il faut avoir faim. Pour que Dieu parle. Dieu ne parle pas à quelqu'un qui est repu. Dieu parle à quelqu'un qui est dans l'humilité. Dieu parle à quelqu'un qui est à l'écoute. Il dit, Seigneur, j'ai faim. Je veux entendre ta parole. Ta parole va me nourrir, va nourrir mon esprit. Ça va me donner de la force, de la vie. Je vais pouvoir réellement vivre parce que j'entends ta parole. Si tu n'entends pas sa parole, si tu n'es pas capable dans ta communion personnelle de dire, Dieu m'a dit, réellement. Et ce n'est pas le Dieu m'a dit facile. Où, et des fois, on pèse, on dit, je ne suis pas sûr que c'est Dieu qui a parlé. Parce que pour que Dieu parle, il faut vraiment avoir faim. Alléluia. Vous me suivez là? Et en fait, nous devrions accepter, Seigneur, bénis-moi par le fait de me faire souffrir la faim. C'est ça que le texte dit. Parce que c'est comme ça que je vais apprendre qu'il y a une faim et je vais me souvenir et discerner qu'il y a une faim en moi. Nous avons tous faim. Et cette faim, très souvent, à chaque fois derrière, renvoie à un principe qui est spirituel. Je parlais de sexe tout à l'heure. C'est un moment d'amour profond avec quelqu'un où tu fais un seul esprit avec lui. Eh bien, spirituellement, Dieu veut avoir du sexe avec nous. Je vous le dis, tous nos besoins physiques ont un rapport spirituel. C'est Corinthiens qui nous dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui se livre à lui dans son esprit et qui a faim d'amour, qui a faim, qui a besoin de s'attacher. Sans cet attachement, si tu n'es pas comblé par ça, autre chose, tu boiras autre chose, tu mangeras autre chose, mais qui va te donner une illusion. Qui va te donner une illusion. Il dit, choisis même, tu peux toi-même te mettre dans un jeûne, ressentir la faim. Quand la faim est là, fais une pause. Oh, j'ai faim. Arrête-toi, dis, Seigneur, en fait, j'ai besoin de toi. J'ai faim de toi. J'ai soif de toi. Et je veux que ta présence vienne me rassasier, que ta parole me nourrisse, que ton esprit me désaltère. C'est ce que, alors ce qu'il y a de très intéressant, je vais faire une parenthèse ici, c'est que la manne, je t'ai nourri de la manne. Est-ce que vous savez ce que signifie manne? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est? Je t'ai nourri de qu'est-ce que c'est? Intéressant. Dis, mon choix pour combler cette faim, c'est de susciter en toi le désir de chercher. Qu'est-ce que c'est? Un chrétien qui quand il ouvre la parole de Dieu, qui il prie, il n'y a pas qu'est-ce que c'est, il ne peut pas être nourri. Qu'est-ce que c'est? J'ai envie de chercher. J'ai envie de comprendre. Si ta communion avec Dieu ne te conduit pas à des moments où tu cherches, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis? Dans quelle saison je suis? Qu'est-ce que c'est? Poser la question. Et ouvrir la parole pour que la parole te nourrisse. Et très souvent, curieusement, quand on pose des questions à Dieu, il répond à côté. Vous avez remarqué? Seigneur, pourquoi? Comment? Curieusement, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Parce qu'il y a une réponse spirituelle à la réalité physique que nous vivons. Tu viens avec ton « qu'est-ce que c'est ?» et Dieu va te parler des réalités spirituelles. Regardez, la femme samaritaine, elle est venue, elle dit, mais donne-moi de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Je veux de l'eau, que je puisse boire, et puis c'est fini. Parce que Jésus lui dit, l'eau que je te donnerai, oh, tu n'auras plus jamais soif. Ils étaient dans deux discussions qui n'ont rien à voir. C'est genre de dialogue de sourds, il dit, mais donne-moi de cette eau. Ouais, ouais, non, mais je te la donnerai, mais appelle ton mari. Ouais, mais mon mari, vous connaissez l'histoire, je vous la fais courte. Oui, mon mari, mais en fait, c'est pas vraiment mon mari. Jésus dit, ok, je veux te donner une eau. Mon nom à moi. Derrière ta soif physique, il y a une soif spirituelle. Si d'abord je ne te comble pas, tu vas courir, courir, courir. Ça ne va pas te désaltérer. C'est ma présence qui te désaltère. C'est mon esprit qui te désaltère. Mais ça demande des assoiffés. Ça demande des affamés. Le royaume de Dieu s'ouvre pour les affamés. Le royaume de Dieu s'ouvre pour les assoiffés. Seigneur, je ne me contente pas, ce n'est pas suffisant, il y a plus que ça. Dieu aime ça. Ce n'est pas de l'ingratitude, ce n'est pas un manque de contentement. Non, 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 il y a plus que ça. Tu as promis plus que ça. Seigneur, j'ai soif, je ne peux pas me contenter de ça. Je ne peux pas me contenter de ce qui est des miettes. Tu m'as promis que je serai à ta table et que j'aurai les pains. Je ne veux pas les miettes. Donc j'ai faim. Qui c'est qui a faim ici là? Alléluia. Faim. Faim, soif. Et quand ça te saisit, waouh, c'est des cris. Vous savez, quand quelqu'un a vraiment faim, dans une période de disette, il est capable de voler et puis personne ne va lui en vouloir. En tout cas, moi, si mes enfants ont faim, ça nous fait faire des choses. J'aimerais beaucoup que notre église soit remplie d'affamés, prêts à faire de la violence pour le royaume de Dieu. Il dit, ce sont les violents, ce sont les affamés, ce sont les assoiffés qui vont bousculer le ciel. On veut que le ciel s'ouvre. Tu as promis, alors on frappe. Tu as promis, alors on demande. Or, tu as promis, alors on cherche, jusqu'à ce que tu te laisses trouver. Parce que tu as dit, celui qui me cherchera de tout son cœur, je me laisserai trouver. C'est bizarre, mais Dieu aime quand on le cherche vraiment. Parce qu'il sait, quand il dit, Seigneur, oui, donne-moi, j'ai soif, il sait que tu n'as pas soif. Il le sait. Oui, Seigneur, bénis-moi. Puis quand tu vois une fois, 10 secondes, 15 secondes, 5 minutes, bon, ciao, bye-bye. Je ne lâcherai pas. J'ai faim, tu as promis. Et Dieu cherche des... Oh, alléluia. J'espère que je suis en train de réveiller la soif en vous, là. Il y a plus que ce que nous vivons. Il y a plus... Le ciel doit s'ouvrir plus largement pour qu'il y ait un déversement. Non seulement pour nous. Ce n'est même pas pour nos besoins qu'on cherche, mais que son règne vienne, que le salut soit manifesté. Notre vision, c'est le royaume. Ce n'est pas juste « bénis-moi, moi, moi, moi ». Non, j'ai soif du pain du ciel. J'ai soif de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit « si quelqu'un a soif !» Vous savez, c'est le dernier jour de la fête. Le dernier jour, le moment le plus important où on dit « c'est la joie, c'est la fête, c'est culminant ». Jésus se lève. Je ne sais pas où. Il se lève. Tu vois, il dit, bon, il y a plein de monde dans le temple. Il y a plein de monde à Jérusalem pour fêter cette fête. Le dernier jour, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire quelque chose d'en haut? Tellement qu'il dit, et il dit, viens à moi. Dieu promet que si c'est la soif, quelqu'un n'a pas soif, il va passer à côté. Il va regarder, il va dire, ah, il est sympa celui-là aujourd'hui. Ah, mais tiens, un nouveau prédicateur. Oh là là, lui, oh là, c'est sympa. Mais il n'y a pas de soif. Vous savez, Jésus a béni que ceux qui avaient soif. Mais vraiment une soif qui fait qu'il n'y a rien à faire. J'ai décidé de toucher le bord de son vêtement. Je vais traverser, je vais être hors la loi. Parce que j'ai soif. J'ai décidé qu'il est là. Je sais qu'il donne la vie. Je sais qu'il donne à boire. Je sais qu'il donne du pain. Je vais me faufiler. Je suis impur. Je n'ai pas le droit. Mais j'ai tellement faim que je vais pouvoir même aller en dehors des convenances. En dehors des convenances. Pourquoi? Parce que je veux toucher le bord de son vêtement. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai faim. Et tant que ce n'est pas le vrai pain qui me nourrit, tant que ce n'est pas la vraie eau vive qui me désaltère, je ne cesserai pas de continuer de chercher et de chercher encore. Alléluia. Donc, du coup, est-ce que tu cherches vraiment? En fait, tu pourrais te sonder. Tu dis, mais est-ce que c'est un désir ou un besoin? Vous savez qu'il y a une différence? Un besoin, il n'y a rien à faire, il faut que ce soit comblé. Un désir, tu ne l'as pas dit, bon, c'est pas grave. Chercher Dieu, il n'a pas répondu, c'est pas grave. J'ai demandé, il n'a pas ouvert, il n'a pas, c'est pas grave. J'ai frappé, oh, j'ai attendu un peu, il n'a pas ouvert. Ça, c'est pas un besoin. Quand tu as besoin, le texte nous dit, il avait besoin de ses pains pour son ami, Luc 11, mais il a frappé. Il dit, mon gars là, tu vas te lever. Toi là, je te connais, on se connaît, tu vas te lever. Donc lève-toi. Et vous savez, le nombre de fois, on le voit, hein, parce que tu as tellement... Le gars, il dit, écoutez, je vais vous le faire parce que j'en ai ras-le-bol. Dans les services, même administratifs, hein, envoyer tous les jours une lettre. de réclamation. À un moment donné, il va dire, écoutez, écoutez, venez, ras-le-bol. Tu as faim? Tu as vraiment soif? Et Dieu ouvre, le ciel s'ouvre pour ceux qui ont vraiment faim. Et la promesse, c'est que si nous mettons la priorité sur Dieu, notre faim est comblée ainsi. Il dit, il pourvoit. Par-dessus. On a non seulement Dieu et le reste. Oh, hallelujah. Bon, je suis le seul à me réjouir, c'est pas grave. Alors maintenant, quelles sont les causes qui font qu'on n'a plus faim? Intéressant. Peut-être que tu n'es pas né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu, tout bébé qui naît, s'il est en bonne santé, au bout d'une demi-seconde, il réclame. Ouais. Moi, quand je me suis converti, écoutez bien ceci, hein, quand je suis né de nouveau, vraiment. Mais j'ai dévoré la parole de Dieu. Dans le bus, à tout moment, j'étais là, mais on dirait, la parole, mon esprit avait besoin. Un signe que tu es né de Dieu, c'est que ton esprit désire le lait spirituel et pur. Mais le désir, il n'y a pas besoin de dire, oh, ce serait bien quand même que tu lises la parole de Dieu. Un esprit qui est né de Dieu, désire, il crie. Waouh, j'ai besoin du lait. Et le lait, c'est la parole de Dieu. Alors maintenant, imaginez, vous n'avez plus faim. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut regarder de près. La routine s'est installée. La religion s'est installée. Ce n'est plus une relation, c'est une religion. Ok, je me lève, je fais. On lit un peu la parole. On prie au Seigneur. Il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus la faim. Il n'y a plus de. Qu'est-ce que c'est? L'émerveillement. Mais qu'est-ce que c'est? Du coup, on se refroidit. Et ce n'est pas qu'on a quitté le Seigneur. Ce n'est pas qu'on ne donne pas sa dîme, qu'on ne prie pas. Non, non, on fait tout ça. Mais le cœur n'y est pas. Jésus dit, écoute, je connais tes œuvres, tu es fidèle, il y a plein de choses que tu fais, l'église d'Éphèse. Mais il y a une chose, c'est que tu n'as plus cet émerveillement que tu avais au début. Dans l'adoration, tu sais, oh Jésus, je t'aime. Et puis ton cœur brûle, il brûle seulement. Oh Seigneur, je veux être avec toi. Puis dès que tu as un moment, oh, vite, vite, la parole. Puis tu es là en communion. Et Jésus dit, c'est possible de pouvoir maintenir ça tout le temps. Garde ta faim et ta soif. Une autre cause, c'est les épreuves et la déception. Tu as perdu la faim parce que tu as prié, tu as demandé une chose qui te tenait vraiment à cœur, tu ne l'as pas eue. On m'avait dit que si je donnais ma vie à Jésus, ce serait comme une baguette magique et tous mes problèmes seraient résolus. On m'avait dit ça, on m'avait promis ça, tu as vu? C'est une publicité mensongère. Donne ta vie à Jésus et tous tes problèmes seront réglés. Vous savez ça là? C'est une contrefaçon de l'évangile qui est une abomination. L'évangile, c'est pas donne ta vie à Jésus et tous tes problèmes seront réglés, c'est pas vrai. Tes vrais besoins seront rencontrés. Pour pouvoir rencontrer tes vrais besoins, il faut que tu cherches Dieu. Quelqu'un a donné une image cette saison qui m'a beaucoup touché, qui disait, si un enfant, un oisillon, on casse sa coquille avant le bon moment, on le condamne à mourir. Il faut que de lui-même, il décide, je vais vivre, je vais sortir de là, je vais vivre, j'en veux vraiment, il casse la coquille. Si tu le fais à sa place, tu ne lui rends pas service. Ça, c'est la fin de vivre les choses avec Dieu. Mais, je peux vous dire, il y a des épreuves. Vous savez pourquoi les réunions de prière nous remportent? C'est les réunions où il y a le moins de monde qui viennent à l'église. Vous savez pourquoi? À cause de la déception. On a prié, on n'a pas vu le résultat. Parce que l'esprit humain, quand il a essayé une fois, deux fois, trois fois que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne. Enfin, l'âme humaine. Mais l'esprit qui a faim, qui dit non, non, non. Je vais persévérer jusqu'à ce qu'il ouvre. C'est une épreuve. Je peux vous garantir dans ma vie le nombre de sujets, oui, je vous le dis, sans exhaustion. Et ça peut produire un refroidissement, une déception. Du coup, j'ai plus faim. J'ai essayé, j'y suis allé, plus de goût. Il faut être honnête avec Dieu. Il ne faut pas chercher à le cacher. Tu viens, tu fais ton culte, c'est brisé en toi, il y a quelque chose qui est brisé, il n'y a plus la faim, mais quand même, tu es fidèle. On y va, on le fait une fois, deux fois, trois fois, mais le cœur n'y est pas. Il n'est pas guéri, il n'est pas réconcilié. Déception, épreuve. Et en dernier, c'est le péché. Quand on pêche, en général, ça coupe l'affaire. Comment veux-tu aller retrouver celui que tu sais qui n'est pas content avec toi? Ah, il n'est pas content. Tu le sais, il est attristé. Donc, bon, on s'éloigne. Le cœur se refroidit. On s'éloigne parce que, bah oui, mais ça c'est dur. Mais j'en avais envie en fait. Seigneur, j'en avais envie. Si je vais être honnête avec toi, en fait, ce péché, il me plaît bien. Quand on a péché, la faim et la soif ne peuvent pas venir. Par contre, quand on a péché et qu'on le reconnaît, qu'on confesse notre péché, la Bible nous dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et vous savez, quand le pardon est là, la faim revient. Quand on est purifié, la faim revient. Tu n'es pas pardonné, tu n'as pas vraiment fait la paix avec lui. Tu n'as pas réglé cette déception, tu ne l'as pas réglé. Tu dis, mais tu as raison, j'ai tort, donc en fait, si on règle ça, ça se finira toujours de la même manière. C'est-à-dire, je veux reconnaître que j'ai tort, que tu as raison. Donc pourquoi recommencer? Je reste avec un cœur qui s'est attiédi. Jésus dit, je préfère que tu sois bouillant, mais pas tiède. Il dit, bon, quand même, il y a mon salut en jeu, quand même. Je ne veux pas renier, il y a ceci, donc on va être fidèle. Mais on est fidèle, mais il n'y a pas le feu. Et le Seigneur dit, mais réconcilions-nous. Et la faim va revenir. Est-ce que je peux avoir un amen, s'il vous plaît? Un deuxième, s'il vous plaît. Alors maintenant, comment, et après on va y aller, comment renouveler sa faim? Comment maintenir sa faim? Comment faire en sorte que tu es toujours dans une attente de Dieu. On m'a raconté que dans la famine en Australie, quand une période de la dépression, les gens avaient tellement faim et rien, ils prenaient de la poussière, ils le mélangeaient avec un peu de blé qu'ils avaient, ils le mettaient au four pour manger. Ils se remplissent. Tu sais, quand tu as faim, mais, il faut que quelque chose se passe. Notre grand souci, c'est quand on remplace, vous savez, le matérialisme, des tas de choses qui vont nous remplir. Le Seigneur, moi, m'a parlé, dans ma vie, en ce moment, il faut que je sois vigilant sur une chose qui attire mon attention, attire, oh là là, je calcule, je suis pris dans des trucs, ça doit avoir sa place, donc je l'ai contenu sur une journée, tout le reste, c'est Dieu. Puis à un moment, il faut bien faire un certain nombre de choses, mais si on n'est pas vigilant de garder Dieu en premier, c'est dangereux. Alors, on va voir comment retrouver la faim. La première, c'est prendre conscience de son état et avoir le désir de changer. Tu peux juste être honnête. Oui, j'ai plus faim. Ou en tout cas, j'ai plus la soif qui va faire bouger le ciel. Je le reconnais. Qui ce matin veut le reconnaître? Ok, c'est déjà bien. Je le reconnais. Et je décide de changer. Et là, ça revient à ma prédication de dimanche dernier, métanoïa, changement. Cette année 2019, tu vas déclarer que c'est une année où tu vas avoir faim et soif de Dieu. C'est un choix. Ce n'est pas une émotion, c'est un choix. Je décide ce matin. Je décide. Si tu le réalises, tu en prends conscience, tu décides. Et parce que tu décides, des choses vont s'enclencher. Tu ne vas pas attendre que quelque chose arrive. Je vais vous dire, je disais dans un rendez-vous de relations d'aide cette semaine, j'ai dit, tu vois, en fait, très souvent, nous avons des désirs qui sont des prières baguette magique. Seigneur, oh, si tu pouvais faire ça pour moi, bon, il n'y a rien qui se passe. Alors que Dieu nous dit, si tu le désires vraiment, tu vas le décider et tu vas enclencher quelque chose. Ton esprit va se mettre à chercher. Un radar, chercher. Tu vas enclencher un désir. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Tu vas te mettre et tu vas décider de vraiment rentrer dans ce processus. Tu prends conscience, comme le fils prodigue dans Luc 15, il rentre en lui-même et il dit, ce n'est pas possible, il y a du pain en abondance dans la maison de mon père. J'irai vers mon père, je me lèverai et je fais demi-tour. Ça, c'est la conversion. Mais c'est une décision. C'est un choix. Métanoïa. Deux, demande à Dieu de créer en toi un cœur pur. Là, je vais parler de David. David, dans la Bible, c'est l'homme, selon le cœur de Dieu, qui avait soif de Dieu. Il n'y a pas de plus grand texte biblique de soif de Dieu que David. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Oh, comme une terre desséchée, aride et sans eau. Moi, dans le désert, je soupire après toi, je te désire, oh Dieu. Ça, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu a soif et faim de Dieu. Mais à un moment donné, il pêche. Je vous disais tout à l'heure, l'une des causes de la perte de la faim, c'est le péché. Il pêche. Et il met une année avant de se repentir. Au moment où il décide de changer, qu'est-ce qui se produit? Il dit quelque chose à Dieu. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous savez, dès que le cœur est pur et l'esprit est bien disposé, boum, la faim et la soif revient. C'est comme ça, quand notre esprit est dégagé, naturellement nous sommes portés à désirer la présence de Dieu. Donc la deuxième étape pour retrouver la faim et la soif, c'est de demander à Dieu de nous donner un cœur pur. Tu as péché, mais nous péchons tous. Comme je vous disais dimanche dernier, moi je suis un professionnel de la repentance. Parce que plus je pêche, plus je... Si nous avons péché, nous demandons. Qui passe une journée, deux journées, une semaine sans péché? Qui? Vous me suivez là? Ah non, on ne dirait pas. Parce que si jamais vous passez une journée, deux, une semaine sans... C'est qu'il y a un problème, vous êtes devenu insensible. Hein? Écoutez-moi bien là. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Peut-être que ton esprit n'est plus bien disposé. Ben, décide de l'être. Deux, trois, fais de la connaissance de Dieu ta priorité. Numéro une, la connaissance de Dieu, la recherche de Dieu. Matthieu nous dit, cherche premièrement. C'est une recherche active. Sonde ton cœur pour savoir si c'est ta carrière qui est en premier, ton besoin affectif qui est en premier, ton besoin de loisirs, de divertissement qui est en premier, les relations, la codépendance qui est en premier. Il y a des... Laisse ton cœur être sondé. Un homme qui fait de la faim et de la soif de Dieu sa priorité est heureux. Seigneur, je te prie, comme ça fait plusieurs dimanches que tu nous le dis, de sonder nos cœurs. Nous donner de connaître nos pensées, nos priorités, nos moteurs intérieurs, nos désirs profonds. Et nous voulons que tu y mettes là une fin d'en haut. Au nom de Jésus. Quatrièmement, je disais tout à l'heure, l'appétit vient en mangeant. L'appétit spirituel vient en mangeant. Ça vous est déjà arrivé, ça? Vous n'aviez pas particulièrement faim, puis vous vous mettez à table. Plusieurs scènes comme ça. Tu avais prévu de jeûner, et puis tu es dans la maison, il y a une bonne odeur, et puis ils sont à table. Tu les vois manger, et puis faire des commentaires. T'as faim. Finalement, bon, on fera le jeûne demain. Ou même tu es à table, finalement, j'avais pas très faim. Et puis, non, mais en fait, ce matin, ce sera juste une petite salade. Je prendrai que la salade. Et puis, les lasagnes arrivent. Les autres sont en train de manger. Ah, tu dis, mais finalement, tu goûtes un peu, donne-moi juste un peu. Donc, oh non, mais resserre. Vraiment, c'est bon. Parce que, tiens, je n'avais pas réalisé que j'avais faim. Vous savez, la Bible, c'est une nourriture de notre esprit. Il faut que tous les jours, je sois en connexion avec la parole de Dieu. Mais que, et un jour, je suis en train de préparer dans mon esprit une prédication où je vais dire comment se nourrir de la parole de Dieu. Parce que peut-être qu'il y en a plusieurs qui lisent, c'est comme du plâtre. C'est comme un chewing-gum, il n'y a plus de goût. Tu lis. Bon, c'est fatigant, tu prends des... Tu sais, tu as des muscles là qui sont en train de prendre, mais il n'y a rien. Tu mâches, mais il n'y a rien, il n'y a plus de jus. Est-ce que je suis le seul ou ça arrive ça comme ça? Allez, on va y retourner. Et tu mets le chewing-gum, tout ça. Oh, mais le goût n'y est pas. Dites-moi que je ne suis pas le seul, dites-moi-le. Hein? Donc, je prépare une prédication, on va dire, comment, à chaque fois que tu médites, il va se produire. Alors, ce n'est pas une baguette magique non plus ici de dire les sept clés pour que tous les jours. Non. C'est une culture, c'est une manière de chercher. Parce que ce qui importe pour Dieu, c'est que tu cherches, que tu dises, mais qu'est-ce que c'est? Que tu maintiennes cette sorte de suspense dans ton esprit, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le signe. Ce n'est pas toujours que tu auras la réponse. Parce que Dieu ne donnera pas toujours la réponse. Mais il va répondre à quelque chose de bien plus profond parce que tu vas apprendre à te nourrir, à vouloir te nourrir, la lire ou l'écouter. Il y a des gens qui disent, ah mais moi, j'aime pas lire. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut l'écouter. Donc, tu n'as plus de raison. Tous les jours, trouve le moyen. En courant, machin, écoute la parole. Il y a des choses qui vont se déclencher dans ton esprit. C'est ton esprit qui en a besoin. Ce n'est pas toujours l'âme, l'intelligence, mais je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit quand tu déclenches une connexion journalière avec la parole de Dieu. C'est ça qui va nourrir ton esprit. Et du coup, parce que tu vas manger, ça va avoir du goût, ça va déclencher la faim et la soif. C'est comme ça que ça marche. Ça réamorce quelque chose en rapport à la parole. J'ai bientôt fini. Autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'il faut fréquenter des gens qui ont faim pour avoir faim. Si tu fréquentes des gens qui ont faim d'autre chose que de Dieu, tu vas avoir faim d'autre chose que de Dieu. Choisis les gens que tu fréquentes et regarde qu'ils aient faim de Dieu. Regarde qu'ils aient soif de Dieu. Parce qu'ils vont t'influencer. Moi, je suis vraiment heureux de fréquenter des... Bruno, Steve, parce que tu passes un moment avec eux, mais ils t'inspirent à avoir faim et soif de Dieu. Ça te bouscule. Tu dis, oh, où est-ce que j'en suis, moi, là-haut? Tu as l'impression que c'est le truc qui me montre, oh, je vais m'accrocher, là, parce que là, il y a un niveau d'appétit, de faim, de soif de Dieu, c'est sérieux. Et du coup, ça t'inspire, ça réveille ta propre soif de fréquenter des gens. Si tu fréquentes que des gens qui ne t'inspirent pas à avoir faim et soif de Dieu, regarde bien les gens que tu fréquentes. Regarde-les bien. Considère-les très très bien. Passe un moment de prière avec quelqu'un de proche et jauge son appétit de Dieu. Je vais terminer cette prédication en vous reposant la question. C'est quoi ton niveau d'appétit? Et je vais vous défier à choisir un domaine où tu sens qu'il y a de l'appétit dans ta vie. Faim jeûne. Je répète. Choisis un domaine de ta vie. Ça peut être le sport, la musique, ça peut être tellement de choses qui peuvent remplacer. Puis tu, quand il y est, alors regardez votre niveau de concentration. Le temps passe, tu ne te rends pas compte, tu es pris dans quelque chose. Il y a des gens, c'est les jeux vidéo. Ils sont pris dans les jeux vidéo. Viens manger, j'arrive. Un quart d'heure après, viens manger, j'arrive. Il est pris dedans. Ça là, c'est quelque chose qui est en train de combler quelque chose qui ressemble à la place de Dieu. L'idée, si c'est les jeux vidéo, jeûne. Pourquoi? Pour frustrer ta faim. Et au moment où c'est frustré, tu décides de te tourner vers Dieu. Certains, c'est le travail. Ils peuvent être dans le travail, mais quand ils sont dans le travail, ils ne voient pas le temps passer. S'ils sont pris dedans, bon, ce n'est pas pour tout le monde, hein, c'est pour certaines personnes. C'est pour certaines personnes. Mais ils ne voient pas le temps passer, ils sont pris dedans. Le Seigneur dit, prends un temps de jeûne. Et cherche-moi. Certains, c'est le sexe. Bref, vous voyez, est-ce que je dois continuer la liste ou... Quel que soit le domaine où tu sens que ton esprit vibre, quelque chose en toi est en train de vibrer, ça vient te réveiller. Et tu, le temps, tu le... Voilà, bien, prends ça, jeûne. Choisis de jeûner, en plus de la nourriture. Certains, c'est la nourriture, et vous pouvez dire, oula, c'est déjà pas mal le jeûne de Daniel. D'autres, c'est le café. Vous savez, le café ? Des migraines, ils vont se retrouver avec des... Ils sont pas bien, presque besoin de délivrance, quoi, vous voyez. Quel que soit le domaine, mais prends le temps. Quand c'est discerné, organise ta vie pour dire, je veux pas que ça prenne la place de Dieu, je vais jeûner et dire à Dieu que c'est toi le premier. Viens me rencontrer. Et ça va pas vous demander juste un temps. Comprenez, ça prend des persévérants. Ça prend des passionnés. Je vous propose qu'on aille devant Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Venir à lui. Et il ne faut pas que venir, il faut faire une deuxième chose. Pas mal, mais bien tenté. Qu'il vienne et qu'il boive. Qu'il boive. Il faut apprendre à boire, à venir à Dieu et boire. D'accord ? Et des fleuves d'eau vive vont se couler de notre sein. Je vous propose qu'on se lève, s'il vous plaît. Je voudrais nous engager dans ce jeûne à développer la faim de Dieu. Et donc, on va continuer à se priver donc, de viande, d'alcool et tout ça. Mais aussi, ce que je suis en train de pointer, j'aimerais que chacun de nous, même si tu considères que en fait, tu as suffisamment faim de Dieu ou que tu as suffisamment soif, tu as le sentiment que vraiment c'est suffisant, déjà en soi, c'est peut-être une occasion de se sonder. Mais que chacun de nous s'engage à jeûner de quelque chose de particulier pour dire sa faim et sa soif. Et quand c'est intense, quand on est privé de quelque chose qu'on aime vraiment, il y a une intensité d'un besoin qui est là. Et il s'agit de la canaliser vers Dieu. Ce besoin de le canaliser vers Dieu, de dire « Seigneur, je veux avoir faim de nouveau et soif de nouveau, comme au premier jour. » Et dans ce temps, quand on va chanter ce chant, que chacun de nous soit comme devant Dieu, oublie les autres, etc. Puis dire, je focalise mes pensées, mon attention, ma passion, mon énergie sur Dieu, au plus profond de moi. Dire à Dieu, je veux que tu deviennes mon premier désir, mon premier besoin, ma faim de la parole et de l'esprit de Dieu. Alors prenons le temps même d'élever nos voix, d'élever nos mains, de nous mettre à genoux, mais laissons monter un désir. Allons devant Dieu avec passion, une recherche active. Le Seigneur dit, aie donc du zèle et repens-toi. Qui est du zèle, qui est un désir de cœur, qui est une détermination, qui est un choix, une prise de position. Je veux aller devant toi. Avec un cœur comme David, crée en moi un cœur pur. Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.